Radio Grand Ciel présente le quart d'heure de santé, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois le docteur Petitbon, qui est médecin généraliste, radiologue hospitalier dans des hôpitaux de proximité et en CHU, et il a eu une pratique de généraliste, de radiologue libéral, et il va aujourd'hui évoquer pour nous les accidents domestiques. Docteur Petitbon, bonjour.
Bonjour Christiane Blain et bonjour chers amis qui nous écoutez ce soir.
Aujourd'hui, vous allez donc évoquer les accidents domestiques. On s'aperçoit effectivement que nombreux accidents sont dus à des événements qui se passent dans la maison. Alors, vous-même qui avez une carrière où vous avez touché la radiologie, vous avez eu aussi des patients comme médecin généraliste. Alors,
absolument.
Oui. Pouvez-vous d'abord nous dire comment ça se passe et surtout après nous donner des conseils dans la maison?
Alors, comme vous le savez, les accidents domestiques, vous l'avez bien dit, se passent à la maison. Donc la maison, en principe, c'est quelque chose de... La domus, c'est quelque chose de protecteur. Vous êtes chez vous, vous n'êtes pas en face d'agresseurs dans la voie publique,
oui.
Vous n'êtes pas dans un quartier dangereux, vous êtes à la maison. Tout vous est... connu. Alors, nous savons qu'il peut y avoir des accidents domestiques pour les petits-enfants.
Voilà.
Alors, cela, nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Peut-être m'inviterez-vous une autre fois pour traiter ce sujet qui est très important, en effet. Pour évoquer quelques petits accidents qu'on peut éviter, c'est l'étouffement avec des manœuvres qui sont bien connues après que vous ayez appelé les secours. C'est la manœuvre de Wolfenson ou Emmlich. C'est-à-dire que vous essayez de comprimer le thorax pour faire expulser le corps étranger qui obstrue les voies aériennes supérieures respiratoires. Bon, mais nous n'en parlerons pas aujourd'hui, mais il faut quand même que les parents le sachent. Deuxièmement, les adultes, les grandes causes d'accidents ne sont pas des accidents de maladresse, sont des accidents de bêtises. Toujours de bêtises. Le père va vouloir aller sur le cerisier et pense qu'il est plus malin que la branche qui casse très facilement chez le cerisier, qui va prendre une échelle sans s'assurer qu'elle est bien instabilisée, qui va prendre un outil et oublier qu'il la branche sur de l'électricité avec les pieds dans l'eau. Enfin, des tas de choses comme ça qui sont toujours, pour les adultes, des bêtises, en dehors évidemment des accidents de la voie publique qui ne sont plus domestiques. Après, pour les seniors, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué.
Alors, vous dites les seniors, c'est à partir de quel âge?
Écoutez, les seniors, on ne va pas donner d'âge chronologique, puisque c'est l'âge des artères. Et vous savez bien qu'il y a des nonagénaires qui sont complètement dans la vie et totalement souples, et que vous avez des septuagénaires qui sont déjà très fatigués par l'arthrose et par la vie avec des métiers pénibles.
Oui.
Je ne vais pas vous apprendre ça. Bon, donc le senior, c'est quelqu'un qui perd des facultés, soit parce qu'il a une grosse arthrose, soit parce qu'il a eu un accident, soit parce qu'on lui a fait une prothèse mal supportée, soit parce qu'il a eu une maladie cardiaque, qu'il a donc des petits malaises, soit qu'il a eu un accident vasculaire cérébral et qui lui fait perdre une partie de sa mobilité, soit qu'il a eu un accident grave et il est obligé de se trimballer avec un déambulateur ou une canne. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste.
Oui.
Ce qui fait qu'il y a un handicap dans la vie courante.
Alors, moi, j'ai en ce moment des amis qui se cassent tous le col du fémur et également aussi le poignet. On avait l'impression que c'était presque une épidémie. Alors, effectivement, on glisse sur un tapis, on descend mal une marche. Alors, on se demande comment ça se fait, ça, parce que les gens dont je vous parle, ils ne sont pas vieux, ils ont toutes leurs facultés, ils ont... Alors, est-ce que c'est une coïncidence?
Non, vous avez tout à fait souligné, je ne dirais pas les principales causes, mais une bonne partie des causes. En effet, je vous rappelle, vous êtes chez vous, vous avez perdu un petit peu de mobilité parce que vous avez de l'arthrose, vous avez perdu un petit peu de mobilité parce que vous boitez, vous êtes fracturé la cheville, etc. Vous avez votre tapis qui a fait un petit pli. Et quand vous marchez sur ce tapis sur lequel vous avez marché toute votre vie, vous voulez prendre quelque chose, donc vous ne regardez pas où vous avez mis les pieds, mais vous regardez l'objectif de votre déplacement.
Oui.
Et vous chutez sur ce tapis. Vous n'êtes pas obligatoirement obligé de vous casser quelque chose, puisque grâce au ciel, même chez les gens très âgés, 85 des chutes se terminent heureusement. Vous butez contre le canapé, contre le siège qui était là.
On se casse pas forcément.
On se casse pas forcément. Dans les 15%, en revanche, là, vous cassez quelque chose qui va vous ennuyer beaucoup.
Ouais.
Soit le col du fémur, comme vous l'avez souligné, soit la fameuse fracture du poignet, qui a un très joli nom, qui s'appelle la fracture de Poutocol.
Ah, racontez-nous ça, parce que
alors,
très
la
bon
fracture
nom.
De Poutocol, c'est la fracture des deux os, le radius et le cubitus, et en général, malheureusement, avec un petit déplacement, ce qui fait que vous devez avoir un traitement orthopédique, c'est-à-dire qu'on va vous mettre des broches. Oui, des broches, enfin, la même famille. Et que vous allez être ennuyé assez longtemps. Que vous
4 mois.
Oui, et que vous risquez après d'être un peu déminéralisé. Si vous cassez le col du fémur, c'est un petit peu différent parce qu'il y a des prothèses immédiates pour les fractures sous-capitales. Et on vous met une vis à compression si c'est une fracture un peu plus basse qui s'appelle pertrocantérienne. C'est-à-dire, grosso modo, le col du fémur, vous le cassez en bas, on vous met une vis. Vous le cassez en haut, juste sous la tête, la portion arrondie, on vous met une prothèse. Le résultat est à peu près le même, vous êtes obligé de faire une petite rééducation.
Ah oui.
Mais elle n'est pas énorme, mais quand même.
Et pour le poignet, c'est rééducation.
Alors
aussi.
Le poignet, c'est une immobilisation d'abord, et puis après, bah écoutez, là, une station thermale est bienvenue.
Ah oui. Et quelle station vous...
Par exemple, Bagnoles de l'Orne est très bon pour ses rhumatismes, ses récupérations de déminéralisation ou d'algotristrophie, c'est-à-dire une déminéralisation douloureuse.
Oui. Alors, pourquoi vous dites que cette cause est infime et la conséquence sérieuse ?
Bien, écoutez, un pli dans un tapis n'est pas énorme.
Oui.
Vous allez prendre votre douche comme d'habitude, mais vous n'avez pas de tapis antidérapant. Vous allez glisser dans votre douche. Parce que vous avez utilisé un savon de douche que vous n'aviez pas l'habitude, qui est plus glissant, etc.
Peut-être la vue est moins bonne aussi.
Alors, vous êtes tout à fait, Christiane Blain, tout à fait. La vue peut être moins bonne, les articulations plus raides.
Oui.
Vous avez un équilibre qui est un peu défectué parce que vous avez une hypotension, que vous prenez beaucoup de médicaments parce que vous avez beaucoup de douleurs, etc. Et puis, vous pouvez aussi avoir une faiblesse musculaire parce que vous ne faites plus d'exercice, parce que vous avez de l'arthrose, parce que vous avez un pied douloureux, etc. Je ne vais pas vous faire la liste de tout ce que vous ne faites plus.
Alors, vous avez d'ailleurs énuméré beaucoup de maladies. Je pense aussi à l'hypoglycémie. Et j'ai remarqué que beaucoup de seniors étaient atteints d'hypoglycémie. Et qu'est-ce qu'on peut faire ?
Eh bien, pour l'hypoglycémie, premièrement, il faut un petit peu la connaître, c'est-à-dire que votre médecin doit vous avoir fait des examens de sang, vous avoir fait une hyperglycémie provoquée, par exemple, pour voir que vous n'êtes justement pas diabétique ou vous êtes diabétique et que si vous mangez pas régulièrement, votre pancréas fait des siennes et vous met en hypoglycémie. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est d'avoir toujours un petit sucre, un petit bonbon, une petite menthe, etc. Bon, vous avez l'hypoglycémie. Oui. Elle est toujours brutale chez le senior.
Et l'hypoxie, alors ?
Alors, l'hypoxie, c'est un petit peu plus rare. C'est en général des personnes qui ont de mauvais poumons parce qu'elles ont fumé, parce qu'elles ont travaillé dans des produits un petit peu toxiques, et qu'à ce moment-là, elles respirent mal, et qu'elles font de moins bons échanges d'oxygène, et donc il y a moins d'oxygène dans leur sang. Donc, elles font des malaises d'hypoxie, c'est-à-dire de manque d'oxygène.
Alors, j'en reviens à la chute. Et effectivement, cette amie, il y avait un pli dans le tapis. Et elle a eu cette fracture de Poutocol.
Pour le poignet.
Pour le poignet. Et alors, à votre avis, que faire quand on a un cas de chute comme ça ?
Alors, premièrement, est-ce que vous êtes seule dans la maison ? Oui ou non. Si vous êtes seul dans la maison et que c'est une personne qui se demande pourquoi sa voisine n'est pas visible alors que tous les jours elle sort ses poubelles, elle va promener son chien, elle la voit pas. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle frappe à la porte, on ne répond pas. Si elle sait où est la clé en cas de danger, elle ouvre la maison, elle n'allume pas l'électricité. Elle n'allume pas l'électricité parce qu'elle ne sait pas si le malaise de son ami ou de sa voisine n'est pas dû à une fuite de gaz.
Ah oui, donc chers amis auditeurs, si vous entrez chez quelqu'un qui a été absent longtemps, Ne pas allumer l'électricité.
Oui, ne pas allumer l'électricité avant d'avoir fait un petit bilan. Est-ce que ça sent le gaz? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Une fois que vous avez ouvert les fenêtres et que vous voyez la personne, elle est tombée. Est-ce qu'elle est tombée récemment? Elle va vous le dire si elle est consciente. Mm-hmm. Ou est-ce qu'elle est tombée il y a quelque temps? Vous pouvez toujours la lever. Vous pouvez toujours la lever. Mais vous avez évidemment prévenu d'emblée les secours. Vous avez d'emblée
fait
le 15.
Donc là, tout de suite, on fait le 15.
Mais vous avez le droit, puisque ça n'est pas une urgence, de la lever, éventuellement de l'allonger sur un canapé, si vous avez la force. Mmh. Hein, si vous êtes une personne du même âge que votre ami nonagénaire, évidemment, vous appelez le fils, vous appelez quelqu'un, un autre voisin, vous n'allez pas vous casser le dos. Mais si vous pouvez l'allonger, vous l'allongez, et vous vous renseignez sur la durée où elle est restée allongée. Parce que si c'est long, elle peut s'être fait un problème de muscle, avoir fait fondre ses muscles et risquer une insuffisance rénale. Donc c'est très ennuyeux, il faut parfaitement connaître ça et le signaler à ce moment-là aux sauveteurs et aux médecins qui viennent en secours avec le SAMU.
Donc quand on pénètre chez quelqu'un qui a disparu depuis un petit moment, la première chose d'ailleurs est éteindre l'électricité, faire le 15.
Non, vous ne touchez pas à l'électricité.
On ne touche à rien.
Vous ne touchez à rien parce que toucher à l'électricité fait une petite étincelle.
Ah oui, même
donc
ça.
Donc que vous l'allumiez, vous l'éteignez, il y a une petite étincelle possible.
Oui.
Donc vous ne touchez pas, vous repérez si c'est une cause de l'intoxication de la patiente, de la blessée, celle qui a fait la chute. Donc vous sentez, hein, vous savez, le gaz, ça sent quand même. Vous ouvrez les fenêtres éventuellement et vous n'allumez pas l'électricité tout de suite.
D'accord.
Une fois que vous êtes assuré que ce n'est pas le gaz, vous faites ce que vous voulez.
Bon. Alors, quels sont encore les dangers, si je puis dire, à domicile?
Alors, à domicile, je vous ai parlé, donc, c'est les marches, les escaliers, les tapis, les obstacles sur le trajet que vous avez l'habitude de prendre. C'est pour ça qu'il faut peut-être laisser l'électricité la nuit, une lumière la nuit. Bon, et puis faire passer du monde quand les personnes sont seules ou quand c'est un couple qui a des difficultés, faire passer, vous savez, les aides à domicile, les ADMR, enfin vous connaissez tout ça, c'est probablement bien mieux que moi, ce sont toutes des aides à domicile qui sont validées par les aides sociales, hein. Ce sont des aides à domicile qui existent. Le nom peut changer dans votre département, mais ce sont des aides à domicile qui sont validées par la Sécurité sociale, validées par les aides aux personnes âgées dans les EHPAD et équivalents.
Donc, une personne qui a quel âge? Parce que vous dites qu'il faut venir à partir de quel âge?
À partir du moment où elle est dépendante.
Mais c'est ça, où elle ne se sent pas rassurée.
Dépendante, c'est pas uniquement pas rassurée, c'est que elle est handicapée, elle peut pas bouger, elle peut pas se lever, elle est
grabataire. Donc c'est quelqu'un qui va demander pour elle cette aide que vous évoquiez.
Oui, et les médecins savent, ils vont proposer parce que vous savez tant qu'on peut maintenir les personnes à domicile, c'est mieux que de les envoyer dans une EHPAD. Les EHPAD, vous savez que c'est un établissement public d'hospitalisation pour adultes dépendants. Donc les personnes qui, en effet, commencent à être invalides chez elles, on va les mettre dans ces maisons spécialisées. Et si elles peuvent rester avec de l'aide à domicile, quel que soit le nom de l'association qui aide, c'est bienvenu.
Eh bien, docteur Petitbon, un grand merci parce que je crois que maintenant, eh bien, nous en savons beaucoup plus sur les accidents à domicile. Je vous rappelle, chers amis auditeurs, que vous pouvez réécouter notre émission sur www.radiograndciel.fr. Un grand merci, docteur Petitbon, et à bientôt pour d'autres émissions, j'espère.
Eh bien, merci à Christiane Blain de m'avoir reçue, et j'espère effectivement vous voir un de ces jours prochains.
Merci.